Ok, on est trois.
On va où là?
Mais c'est quoi ces vitres là? On voit rien.
Bonjour et bienvenue dans notre émission.
Ça va vite, ça va vite.
Bienvenue surtout dans notre aventure.
Qu'est-ce qu'on fout là?
Qu'est-ce qu'on voit là?
La nuit. La nuit et ses lumières.
Oh, c'est très haut quand même. Hein. Très très haut.
Ouais.
Et voilà.
Salia, comment t'es toi?
Ben moi là franchement ça va. En fait, vu que je vois pas trop le sol, là ça va.
Est-ce que le monde est grand?
Bien sûr.
C'est la pesanteur.
Là on a la vue des oiseaux. On est haut, comme ils nous voient eux, ben on voit pareil. Then we must send me home to you before the harvest
starts again.
Notre histoire s'est construite.
Transformée peu à peu.
Transmise oralement de bouche à oreille.
On a des zones interdites, du coup, sur la carte.
Ces zones rouges, là.
Voilà, les zones rouges qui sont des zones, en fait, de...
Notre histoire, en quelque sorte, est devenue une légende.
Donc voilà, donc ça veut dire que ça, on ne peut pas y passer. Donc soit on passe ici, le long vraiment de la côte, ou alors on prend un peu plus au large. Drifter, it's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you.
Et d'après vous, quels peuvent être les dangers sur un bateau pour vous pendant qu'on navigue?
Un faux mouvement du bateau,
glisser,
par exemple.
Glisser et tomber dans l'eau.
Alors voilà. Mmh. L'eau qui monte, on glisse.
Voilà, c'est ça.
L'eau
tu
qui
glisses,
monte,
tu
c'est rare. C'est rare. Ça n'arrive. Ça dépend des vagues.
Le bateau est gros, il n'y a pas trop de vagues. Globalement, c'est pas le plus gros. Alors, tu disais glisser, tomber à l'eau, enfin tomber tout court. Toi, t'en parlais tout à l'heure aussi. C'est quand même le principal truc dont vous allez devoir vous défier.
Ulysse, après 10 ans de guerre et 10 ans d'errance sur les mers, arrive dans le golfe du Lion avec son équipage.
En fait, je pense que déjà, vous avez quand même toutes et tous l'instinct de survie.
Oh, ustre!
Il se transforme en pirate.
Ustre! Ça vient de où ça, ustre?
Je peux me retourner, ça vous dérange pas?
Oh, is. En fait, quand vous avancez la rame, on dit « oh », quand vous tirez, on dit « is ».
Ah, is.
Okay. Oh, Willis, les aventures ne font que commencer.
Il y a des contraintes.
Ulysse, dans les temps.
Même s'il y a des gens qui sont encore plus jamais sur le bateau, et tout, c'est pas gênant, c'est juste pour
faire. Tout le monde à la piscine, tout le monde à la piscine. C'est une rêve.
Rakam 2 du schéma Forcette.
Je pense que tu y arriveras depuis là où c'est pas trop haut, à descendre sur le quai.
Non, c'est bon, il est haut.
Ok. Non, mais je vais pas, on va pas sur ce quai-là, on va être sur le ponton qui est derrière, dans l'angle.
Vous êtes vraiment les personnages que vous pensez être.
À la glace, chouchou beignet, boisson fraîche, café chaud, le régal du palais, le beignet de l'été, de la beauté, de la gaieté, il faut le goûter juste à côté. Il suffit de m'appeler, j'accourrai au pied pendant le beignet qui fait rêver. On en mange une fois dans la journée, on en rêve toute l'année, il est beau, il est gros, il est chaud, moelleux, délicieux, onctueux, malicieux, capricieux. Il a toutes les qualités, il manque à le croquer, celui-là on l'aime, on l'adore et même quand on dort, on en rêve tellement qu'il est bon.
À la plage, je vois du sable doré qui brille comme des bijoux. Et l'eau bleue, comme le ciel ensoleillé. Au loin, l'horizon qui nous fait gamberger. Et les bruits des vagues en mélodie. Et l'odeur du poisson mélangé à mon œil. Puis les chouchous baignés qui nous consolent. Les familles et les enfants qui s'amusent.
Là, c'est vos vacances ici.
Bah, depuis 40 ans.
Ça fait 40 ans, bien.
45 ans.
Et moi qui fais la sirène.
On est où ici alors?
Au Gros du Roi.
Vous aimez bien, vous?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites?
On se baigne, on va
va au restaurant, on va faire des manèges et bah, on joue avec le sable.
Vous êtes allé à l'aquarium déjà ?
L'aquarium, oui, on connaît l'aquarium. Ça fait des années. C'est dommage, il y a des requins, mais il n'y a pas de dauphins. Je n'arrive pas à en voir des dauphins.
Jérôme, il y a un endroit où ça bloque, on dirait.
Le vent nous pousse d'une puissance phénoménale. Éole, en collaboration avec son père, Poséidon, veille à ce qu'on arrive à notre destination.
Un annonce spécial, go!
Sur la route entre le Cap d'Agde et le 7e continent.
Wesh, c'est où le 7e continent?
Il affronte alors tout ce qui peut se trouver de monstre dans la mer.
Et dans la tête des hommes.
Où la pollution gagne les esprits.
Aussi vite que les mers.
Matin, l'équipage se met en route.
Donc, vous me confirmez que c'est bien le voilier coque rouge de 17 mètres?
Ouais, je confirme.
Donc, vous allez être en prolongement du ponton 0. Donc juste après la capitainerie, c'est le premier ponton à gauche, vous allez être en long side au bout. Mettez bien vos parpaillages bas car le ponton est assez bas comparé à votre bateau.
Ok, dans le prolongement du quai de la capitainerie, c'est ça?
Négatif, vous passez la capitainerie en prolongement du zéro.
Ok, bon j'ai pas trop les numéros en tête mais je vais trouver. Donc long side, ça marche, donc bout de panne quoi.
C'est ça, en long side, en bout de panne. Vous me passez un coup de VHF quand vous êtes dans l'entrée du port et je viendrai vous aider.
Une pointe arrière avec ça et une garde avant avec ça. Ouais.
Super. Oui, 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 oui. Quel carnage!
Au commencement des temps, il y a la mer, et la mer est partout. Elle brille, elle est bleue, on la voit presque autant que le ciel.
Comment elle s'appelle la plage? On est à la plagette, une toute petite plage donc à l'avant-port. Donc là, vous avez les falaises volcaniques, le rocher là-bas, c'est le rocher de la Rascasse, on l'appelle. Et donc les bouées blanches que vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez un peu dans le soleil, il y a quatre bouées blanches, c'est les bouées du sentier sous-marin.
Cupidon d'en haut observe une réunion divine, convoquée par Poséidon.
La marine protégée qui commence, comme je vous ai dit, au Gros d'Agde, au fleuve Hérault. Vous tracez un trait imaginaire de 3000 nautiques, donc ça correspond à 5,5 km à peu près au large. Et l'autre côté, ça s'arrête au port Ambonne, donc le port qui sépare du camp naturiste. Pareil, vous tracez le trait imaginaire. Donc tout ça, c'est notre aire marine protégée. Nous, on intervient dans cette zone.
Pour lutter contre la pollution marine.
Voilà, on ne va pas trop à l'extérieur. Donc là, vous voyez les habitats. Donc tout ce qui est blanc, c'est du sable, c'est des fonds sableux. Ce qui est vert, c'est des herbiers de Posidonie. C'est une plante endémique de Méditerranée qu'on n'a donc que chez nous. Ce qui est orange clair, ce sont des rochers. Là, vous voyez juste derrière vous, c'est une zone très rocheuse, volcanique ici, avec du basalte. Donc ça continue sous l'eau aussi, hein, ces rochers. Et en orange foncé, c'est du coralligène. C'est un habitat qui est bioconstruit, des animaux et des végétaux qui poussent ou qui grandissent les uns sur les autres. Et donc ça forme un habitat qui est très fragile. On dit qu'il pousse, entre guillemets, ou qui grandit de 1 cm tous les 1000 ans, le coralligène. Donc c'est très lent à grandir. Et donc tout ce qui menace tous ces écosystèmes-là, c'est bon, la pollution est évidemment un des moteurs d'hydrocarbures, mais c'est surtout les encres
dans le ciel. On peut voir les dieux qui sont réunis. On a Hermès, Amphitrite, Poséidon, Athéna, Perséphonia, Hadès, Zeus et Éole. Pendant ce temps, l'équipage d'Ulysse est sur la plage pour rencontrer une des messagères d'Hermès auprès des humains pour comprendre les dégâts causés par le voyage.
Vous imaginez que l'été, il y a beaucoup de monde ici qui veut se baigner, que ce soit autour de l'île du Fort Brescou ou dans les falaises volcaniques. Donc c'est toutes ces encres-là qui peuvent être dangereuses. Donc jeter l'encre sur du sable, c'est pas très grave entre guillemets puisqu'on peut rien arracher. Par contre, jeter l'encre sur du coralligène, vous imaginez que ça le casse. Jeter l'encre dans des herbiers de Posidonie, c'est pareil, ça fait un effet de râteau, donc ça peut l'arracher. Donc justement, nous, c'est notre travail aussi de mettre en place des choses pour protéger ces habitats. Donc par exemple, cette réserve marine qui protège près de 50% du coralligène, donc dans laquelle c'est interdit de jeter l'encre.
Cupidon envoie des flèches. Elles piquent tout le monde pour qu'ils se réveillent et qu'ils ouvrent les yeux.
La laisse de mer, c'est tout ce qu'on trouve sur la plage, hein, qui est laissée par les vagues, par la mer. Donc là, vous avez une Posidonie morte, hein, bien sûr. Donc il y a la racine qui est normalement sous le sable, les feuilles mortes, hein, qui sont tombées. Et bon, la mienne est cassée puisqu'elle est toute sèche, mais normalement, il faut imaginer les feuilles bien vertes qui poussent de 1 cm par an. Donc c'est aussi une croissance très lente. Voilà. Et donc, il y a plein de petits... Il y a plein de petites choses qui viennent se fixer soit sur les feuilles, soit qui viennent directement manger les feuilles. Voilà. C'est un habitat très riche, il sert à plein de choses. Enfin, cette Posidonie est très importante puisqu'elle va servir de cachette aux animaux, de nourriture, c'est une zone de frayère, de ponte. Ça fabrique de l'oxygène évidemment, utile pour les animaux marins mais aussi pour nous, hein, puisqu'il faut savoir que l'oxygène qu'on respire il vient principalement des océans. Donc voilà, elle est très importante. C'est aussi un puits de carbone puisqu'elle garde le carbone dans ses racines, comme les forêts amazoniennes. Hein. Par exemple, les forêts tout court.
Ulysse reçoit une flèche d'amour et tombe amoureux de lui-même. Pendant ce temps, son équipage ramasse des déchets. Dans des seaux, il met tout ce qu'il voit. Cupidon repart vers le ciel.
Des microplastiques, tu vois, tout ce qui est tout petit comme ça. Bon. Alors il y en a des gros, mais voilà, il y en a des petits. Alors ça, par exemple, voilà, ça c'est un coton-tige. Avec l'eau de mer, il s'use et il se casse, quoi, un petit morceau.
Comment il est le sable, Salia?
Il est tarpin chaud. Ça brûle, ça fait mal. C'est quoi? Ah, c'est une pierre, ça?
Ah, ça, je pense que c'est plutôt un petit bout de verre poli, tu vois.
Ah, ok, c'est bébé. On va le laisser vivre.
Moi, je dis, plus vers où il y a les gens. On va trouver plus de choses, on va trouver plus de saletés, c'est sûr, des mégots, etc. Regardez, il y a du plastique.
Dans la poubelle du monde, j'ai trouvé les vices de l'humanité.
J'ai trouvé des mégots et des paquets de pâtes périmés.
J'ai trouvé les fachos.
C'est de la sauce à pizza.
Dans la poubelle du monde, j'ai trouvé l'homme.
Moi, je vois rien.
T'as rien trouvé, toi, Mandy?
Non, regardez, il est bizarre. C'est quoi?
Ah, c'est chelou.
Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le bozo est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour, la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure, dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu ne pourras pas trouver.
Madame, excusez-moi, c'est quoi ça? C'est un truc de la mer?
Je sais pas, un morceau de caoutchouc, non de...
On dirait.
Non, ouais, c'est un truc brûlé.
Ouais, c'est bon, c'est un truc brûlé.
Morceau de plastique.
Ouais. Ok. Hop.
Alors, grosse mission.
On est en mission, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on cherche?
On cherche des microplastiques. Hop.
Et ça, c'est quoi?
Ça, c'est un mégot.
Ouais. Il faut savoir qu'on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine en plastique. On mange 5 grammes de plastique par semaine. C'est énorme. Et au cours d'une vie, ça fait 20 kilos. À l'œil, on les voit même plus à force. On dirait que c'est des coquillages. Ça, Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des cartouches de chasse, de fusil, enfin, des chasseurs, quoi. Mmh. Là-dedans, il y a les petits plombs, c'est dans la cartouche, et bon, voilà. Donc ça, on en retrouve beaucoup sur les plages. Sûrement parce que les chasseurs, ils doivent chasser à côté des cours d'eau et tout, avec les crues, ça finit dans les fleuves, dans les rivières, et donc ça finit en mer, quoi. Donc ça, on en a pas mal. Ah ouais. Les bâtons de coton-tige, et ça, c'est sucette. Sucette, il y a, voilà. Donc ça aussi,
La mer agitée a calmé mon âme, balayé par le vent, mes pensées tissaient leur toile dans le firmament. Mal-être ou mal de mer, plus rien ne comptait, sauf cette voile qui oscillait.
Aquaman, c'est un maître des océans. C'est celui qui sait tout sur la mer. C'est le maître des eaux. Il a battu les géants et les titans. Un de ses fils est Triton.
Je suis le roi de la mer. Armé d'un trident, je peux déplacer les océans.
Mais j'ai une vie normale en dehors de la mer.
En faisant le 196, vous tombez sur les pompiers.
Le forçat a les chaînes.
Je veux briser mes chaînes.
Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice ou des hommes hospitaliers craignant les dieux?
Ulysse, transformé par les dieux en otarie pour des raisons qu'il ignore encore, s'est échoué sur la plage du pays des Phéaciens, peuple connu pour sa bonté, son altruisme et son hospitalité. Inconscient, il n'entend pas Nausicaa et ses amis se rapprocher de lui. Surprise et décontenancée à la vue de cette pauvre bête blessée, elle décide de l'amener au Siquarium, le centre de soins le plus proche. Une fois arrivé sur place, une équipe de soignants prend en charge Ulysse. Il est hors de danger. À son réveil, il ne reconnaît pas l'endroit. Paniqué, il commence à hurler.
Où suis-je? Il fait si froid, j'ai mal. Pourquoi mon corps est-il engourdi?
Il tente de se relever, ne remarque pas ses nageoires, sa nouvelle physiologie et tombe de la table d'opération. Confus, Ulysse s'agite, se tord de douleur et, à la vue de Nausicaa, rampe sous une table. D'une voix douce et rassurante, Nausicaa s'approche de l'animal et lui explique toute la situation.
Alors moi je me présente, je m'appelle Élodie, je suis soigneuse animalière au Siquarium du Gros du Roi, donc je vais m'occuper des phoques et des otaries. Donc ça va être du nettoyage des bassins, la préparation des rations alimentaires, faire des sessions d'entraînement avec eux. Et on est aussi support technique avec l'équipe médiation quand on doit faire des sorties ex-situ pour faire du comptage, relever, des plongées, parce qu'on est tous plongeurs professionnels en travaillant au Siquarium. Je fais partie du réseau national d'échouage. Donc, par exemple, quand un dauphin s'échoue sur la plage, je vais pouvoir aller intervenir, soit pour essayer de le ramener au large s'il est encore vivant, ou s'il est décédé, pour pouvoir faire des prélèvements ou pratiquer des autopsies.
Quels sont les soins que vous apportez aux animaux?
Elle ne s'attend pas à ce qu'Ulysse lui réponde. Cela fait 15 ans qu'elle est chirurgienne vétérinaire, 15 années qu'elle parle aux animaux marins, sans attendre qu'ils lui répondent.
On va avoir trois types d'entraînement. Le dynamique, qui va être le sport un petit peu pour qu'ils se dépensent, parce que c'est des animaux qui sont en captivité, donc on leur fournit la nourriture, donc ils n'ont pas à se dépenser pour chasser. On va avoir tout ce qui est ludique, qui, pareil, comme ils ne chassent pas, ils n'ont pas de stratégie de chasse à élaborer, ben on va les stimuler intellectuellement, pareil, en leur faisant réfléchir à des concepts. Donc ça peut être de la reconnaissance de forme, comment ramener des objets. On ne ramène pas de la même façon un ballon qu'un cerceau. Et tout ce qui est médical, bien évidemment. Donc voir si l'animal va bien, faire tous les entraînements, prise de sang, radio, etc. Parce que c'est des animaux, s'ils sont sous anesthésie, en fait, ils peuvent faire des apnées. Et c'est très dangereux pour eux. Donc tous les examens médicaux qu'on peut faire sans avoir besoin d'anesthésie et qu'ils soient en volontariat avec l'animal, on le fait.
Mais cette fois-ci, Ulysse prend la parole.
T'es forte comme Hercule.
Ahurie et émerveillée par ce qui vient de se passer, Nausicaa remercie les dieux de lui permettre de comprendre et d'échanger verbalement avec une autre espèce.
Du côté des mammifères marins, ça va plus être de la bobologie, des petites coupures, ou quand ils sont battus entre eux, ils ont fait une petite morsure. Généralement, on désinfecte simplement et on laisse faire, parce que c'est des animaux qui ont un pouvoir cicatrisant extrêmement fort. Leur hémoglobine fait qu'ils vont coaguler très très vite quand ils sont dans l'eau, en fait, pour pas qu'ils perdent du sang en continu. Leur sang est spécifique et coagule très vite, donc souvent, ils s'auto-guérissent.
Alors, est-ce qu'il y a des espèces qui peuvent se manger entre eux?
Effectivement, il y a des espèces qui sont prédatrices d'autres espèces. Donc quand on construit un bac aquarium avec différentes espèces, bien évidemment, on essaye de ne pas mettre des espèces prédatrices avec des proies pour éviter ce genre de conflit. Donc c'est étudier les populations qu'on met dans les bacs, que ce soit des coraux ou de la végétation jusqu'aux plus gros poissons. C'est vraiment étudier pour qu'ils puissent cohabiter ensemble. Est-ce que c'est des animaux qui peuvent vivre en groupe? Est-ce que c'est des animaux qui sont solitaires? Est-ce que le mâle et la femelle peuvent être ensemble? Est-ce que pas du tout? Ouais, c'est pour ça qu'on doit avoir une connaissance assez pointue quand même des espèces pour pouvoir créer tous ces environnements dans un bac.
Une longue discussion s'ensuit où Ulysse raconte son odyssée. Victime du réchauffement climatique, son village fut emporté par une crue. Tous migrèrent vers de nouveaux horizons afin de reconstruire leur foyer. Ulysse, au fil de son épopée, rencontre des pêcheurs malhonnêtes, des exploitants des fonds marins, des industriels du transport maritime qui consument les ressources naturelles, réduisant la vie à néant. Nausicaa, révoltée, voulut l'interrompre et s'épancher sur la douleur que son discours lui procurait. Mais ravala sa fureur et laissa Ulysse poursuivre son récit.
Je pense qu'il y a quand même cette volonté des pays européens d'externaliser la pollution pour faire croire qu'ils sont vertueux.
Après des jours passés en mer, Ulysse et son équipage aperçoivent ce qu'ils pensent être une île.
Terre ! Terre en vue ! Je suis enfin sauvé !
Ils accostent sur ce qui semble être une plage. Ils sont surpris lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a ni sable, ni arbres, ni montagnes, ni oiseaux.
Au large de Sète se trouve une île qu'on appelle le septième continent. Là-bas, on y trouve
des masques de plongée,
une panière à linge,
un ballon,
des brosses à dents,
du polystyrène,
un panier,
un ballon de foot,
un cheval, mon petit poney,
une bouteille de Javel.
Ils se nourrissent des restes de fast-food, de l'eau croupie des fonds de bouteilles, de tout ce que ce continent poubelle peut leur offrir.
J'espère que ce morceau de plastique fera office de coupe-faim.
C'en est trop pour Nausicaa. Il lui est inconcevable de traiter ainsi la nature et les êtres vivants. Avec ferveur, elle explique à Ulysse qu'ici, dans son pays, tous les Phéaciens cherchent à créer une harmonie entre les espèces vivantes. Elle lui révèle l'importance de l'interdépendance écologique, que seule une solidarité entre espèces peut pallier au dérèglement climatique.
Donc il y a 5 menaces qui pèsent sur les mers et les océans. Il va avoir, on entend parler presque tous les jours, le dérèglement climatique avec le réchauffement de l'eau. Il va avoir la pollution plastique, donc par les déchets, la pollution sonore notamment, avec tous les bruits de moteurs, les forages, etc. qu'il y a en mer. Il va avoir la pollution chimique, avec tout le pétrole, les produits chimiques qu'on peut retrouver en mer. Et enfin, donc la dernière, la surpêche, évidemment. Donc ça, c'est avec les 5 menaces qui pèsent sur les mers et les océans.
Pouvez-vous justement nous citer quelques exemples de solutions ?
Remplacer les produits qui sont à usage unique, les remplacer par des produits qui vont durer plus dans le temps. À la place de prendre une bouteille plastique à la plage, je vais prendre ma gourde et je ne vais pas laisser de déchets sur la plage. Tout ramener dans une poubelle. Donc il y a plein de petits gestes à faire au quotidien qui changent forcément les choses.
Ulysse comprend alors qu'il est vital de sensibiliser tout un chacun à ce concept. Les dieux, satisfaits des leçons qu'Ulysse a tirées de son expérience d'Otarie, décident de lui redonner sa forme humaine. Mais une nouvelle étape, une nouvelle aventure attend Ulysse.
L'équipage se met en route.
Une fois Ulysse retourné à Odysseum, ils s'embarquèrent aussitôt.
Wesh, à Montpellier ?
Ils frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume.
Mais Ulysse s'impatiente. Il veut rentrer chez lui.
C'est que chez les Romains, la punition ultime, c'était d'être envoyé aux galères. Et aux galères, c'est que tu ramais tout le temps. Les galères, c'était des bateaux à voile, mais avec des rames. Et en gros, les galériens, c'est ceux qui ramaient.
Mais là, on va
d'où la galère. Comment ?
Nichène, ouais. Nichène.
Bah, en fait, le problème, c'est que... Mais non, mais depuis... En fait, le bateau, quand
c'est
je...
Ulysse,
non, mais en fait, le truc, c'est que... C'est... Mais non, moi, je pars toujours comme ça quand je rame. C'est pour ça. Comme ça, il n'y a pas de place sur l'autre côté.
C'est là qu'on aborda de nuit. Conduit par Poséidon. Un épais brouillard enveloppe le bateau. On n'y voit rien. Sur cette île vivait un cyclope. Coincé là et affamé. Il mangeait du plastique. Une fois amarré, on débarque et on s'endort en attendant l'aube. Au matin, Ulysse pose le pied sur l'île. Il remarque un truc qui bouge. C'est le cyclope caché sous un tas de plastique. Ulysse va vérifier ce que c'est. Il trouve le cyclope qui est malade et empoisonné par le plastique. Ulysse, sans pitié, le frappe à terre. Il lui lance une pierre.
Personne !
Puis deux, et une troisième, son œil se referme. Ulysse sort sa lame et lui plante dans le ventre. Avant de mourir, le cyclope se demande qui l'a attaqué.
Je suis personne !
Après une bonne nuit de sommeil,
le navire est bloqué dans les temps.
Anaïs, tu viens d'arriver en annexe. Bienvenue à bord.
Pendant ce temps, Ulysse était attaché au mât.
Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ?
Du coup, ça fait 2 ans que je suis animatrice ou éducatrice à l'environnement à la LPO Occitanie, délégation Hérault.
C'est quoi la LPO ?
La LPO, c'est une association de préservation de l'environnement. Ça veut dire Ligue de protection des oiseaux. En fait, c'est une association qui a plus de 100 ans. Et qui s'est fondée à la base sur un combat pour protéger les oiseaux, et notamment le macareux moine. Ça fait à peu près 50 ans quand même qu'on s'est dit que si on voulait protéger et préserver les oiseaux, il fallait en fait s'intéresser à toute la nature, et donc travailler sur les insectes, les plantes, les paysages, etc., etc. Et du coup, maintenant, on travaille sur vraiment toute la nature. De plus en plus, je travaille avec des publics spécialisés, comme les plaisanciers, par exemple, ou les pêcheurs de loisirs, où du coup, je vais aller à leur rencontre sur leur bateau ou sur les digues, etc., pour discuter avec eux de leurs pratiques et comment ils peuvent intégrer la notion d'environnement dans leurs pratiques.
Il y a quoi comme animaux dans l'étang ?
Les hippocampes et leurs cousins, on appelle ça des cygnates. Les cousins de l'hippocampe, ils ont exactement le même bouche, le même museau, mais ils sont tout en long, comme un fil vert. Du coup, ils se cachent dans les herbiers de zoosters, je ne sais pas si vous les avez vus, c'est les sortes de grandes prairies qui sont dans l'étang de Thau. Ça, c'est super, super important dans l'étang de Thau, c'est protégé. Il y a toutes les sèches qui vont venir, les sépioles qui sont un similaire des sèches. Au niveau des espèces consommées, il y a tout ce qui est dorade, sole, mulet. En petits poissons, il va y avoir les petits crénilabres qui font des nids dans l'étang, c'est assez rare pour des poissons. Après, sur les ports, on va avoir les spirographes. Vous savez, c'est des tubes avec des sortes de rosaces au bout. C'est très joli. C'est aussi dans l'étang de Thau. Et bien sûr, il y a la grande nacre, qui est le deuxième plus gros coquillage au monde, après le bénitier.
Et elle, elle a une histoire un peu particulière. En fait, la grande naxe, c'était une espèce qui vivait qu'en mer Méditerranée. On dit que c'est une espèce endémique de la Méditerranée, donc qui ne vit qu'en Méditerranée. Et elle a subi en fait un virus, un parasite qui l'a décimée. Et donc, elle s'est réfugiée dans toutes les lagunes du Languedoc. Et le virus est rentré dans ces lagunes. Et donc, vers les Pyrénées-Orientales et tout ça, elles sont toutes mortes. À l'heure actuelle, on n'en retrouve plus que dans l'étang de Tau, et il y a un étang en Turquie aussi où on peut en retrouver. Ici, vous verrez, si vous mettez la tête sous l'eau, vous en verrez des centaines, des dizaines. Vous n'allez pas comprendre que c'est une espèce vraiment en jeu et très rare. Mais c'est un peu le dernier sanctuaire des grandes nacres au niveau mondial. Et quand même, si on met la tête hors de l'eau, bah, du coup, il va y avoir tous les oiseaux qui sont spécifiques des milieux lagunaires. Donc vous allez avoir les échasses blanches, les avocettes élégantes, qui sont des espèces migratrices, toutes les sternes qui sont sur les toques, là, dans l'étang de Tau, les aigrettes garzettes, etc., etc. Plein d'oiseaux aussi typiques.
C'est quoi les risques de ce métier ?
La première chose qui me vient à l'esprit, ça va être les incivilités des gens, quand même. Parce que du coup, ce que je vous disais, les campagnes qu'on fait auprès des pêcheurs et des plaisanciers, on va vraiment à leur rencontre, on appelle ça du maraudage. Donc on essaye d'aller voir des gens qui ne viendraient pas vers nous, de base. Du coup, ça peut être des gens qui sont assez réticents à nous voir, et du coup, on peut avoir des incivilités de leur part. Ça, c'est le plus gros enjeu, et en découlent aussi les enjeux d'éco-anxiété, sur lesquels on est de plus en plus formés. Ça veut dire en fait des déprimes ou des maladies psycho liés au fait que à un moment donné on constate que notre métier on n'arrive pas à sensibiliser assez fort et de manière assez impactante, et du coup on devient anxieux de ces suite à ces enjeux écologiques, etc. C'est des enjeux aussi qui touchent de plus en plus les jeunes qui ont fait les marches pour le climat, etc. On a constaté quand même des gros enjeux d'éco-anxiété, et nous on est formés à ça parce qu'on est en première ligne de ces enjeux là aussi.
Sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous les poissons se font de la flippe, les vagues sont un vrai régal. Là où ils s'écaillent, ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal produit celle d'extase chez le copain cannibale.
L'équipage d'Ulysse, à bord du Lesdire, hisse le drapeau pirate et repartent pour de nouvelles aventures.
C'est le moment où tu vas tourner ta barre et le moment où il va réagir, il va se passer un certain temps. Donc ce que tu fais, c'est quand là t'es à 30, donc il faut qu'on aille à 50. Donc toi, tu tournes un petit peu, tac, et tu vois s'il réagit. Il commence à tourner un peu. Voilà, là, tu vois qu'il réagit. Donc, du coup, déjà, tu peux recommencer un peu à redresser.
D'accord.
Tu vois, continue à tourner. Cool. Parce que l'idée, c'est pas qu'on parte là-bas, sinon on va devoir refaire dans l'autre sens, tu vois. Là, on est à... Ah, regarde, là, on n'y est pas mal. Et là, regarde, si... on va montrer un peu, voir si ta barre est droite. Ouais, la barre est assez droite. Donc là, tu as à peine à toucher. Normalement, tu vas juste avoir à de temps en temps un peu décalé. Là, il part un peu par là. Donc, ouais, il part un peu. Tourne un peu ta barre vers bâbord.
Pour le moment, c'est un peu calme. Voilà, c'est le tout début de soirée. Le site va commencer à se remplir. La foule va se serrer un peu là, quand l'ambiance va monter avec les premières notes de musique. Donc, je vous invite à faire un tour. Il y a plein de choses qui se passent. Et là, on arrive tout de suite sur le village des rencontres. C'est un endroit où en fait on fait venir des associations et des entreprises du territoire qui travaillent pour l'écologie, pour faire comprendre aux habitants comment on peut un peu préserver ce territoire qu'on a là ici. On est au bord de la lagune de Tau, on a l'eau juste là à quelques mètres. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent sur ce village, je vous invite à aller découvrir. Il y a plein d'animations, les gens sont là pour répondre aux questions, pour vous accueillir. C'est une façon de s'éveiller en compagnie des gens qui travaillent tout au long de l'année pour faire en sorte que l'avenir ait un sens. Et puis surtout, on se questionne sur le sol cette année.
Le sol.
Ouais, les mystères du sol.
Et une pétition, comment on fait vous la présentez, parle de l'extraction minière en eau profonde. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Non, du tout. Vous pouvez nous expliquer ?
Alors en fait, il n'y a plus assez de minerais sur Terre, puisqu'on a déjà prélevé beaucoup, beaucoup de ressources. Et on a besoin de toujours plus de minerais, donc de cobalt, tous les éléments qui servent à fabriquer les téléphones portables, les batteries
de voitures électriques, etc. etc. Donc le projet, c'est la rédaction d'un code minier de manière à pouvoir aller exploiter au fond des océans. Donc c'est dans les abysses, vraiment les océans très profonds, à plus de 6 km de profondeur, là où personne ne supporte, aucun humain n'est jamais allé. On connaît très peu ces endroits-là. Ils ont besoin de beaucoup de calme et de sombre pour pouvoir survivre. Et l'homme est en train d'écrire un code minier, de réglementer pour pouvoir aller extraire ces minerais dans ces zones-là. Donc nous, évidemment, on se mobilise contre, on demande un moratoire pour que ça n'arrive pas. On ne connaît absolument pas les conséquences que pourrait avoir le fait d'aller dans ces eaux profondes pour remuer tout le CO2 qui est piégé, comme on le sait tous maintenant, au fond des océans. On ne connaît pas du tout les conséquences que ça pourrait avoir de remuer tous ces sédiments pour la biodiversité, pour l'humanité.
Ulysse, il est maintenant abandonné au milieu du parc ostréicole de l'étang par son équipage. Dans cette fâcheuse posture, Ulysse se fera désormais porte-parole d'un message universel, celui de l'union des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, au nom de l'amour du vivant.
Nous dépendons des uns et des autres. Sans abeilles, nous mourrons de faim. Sans arbres et algues marines, nous nous asphyxions. Et sans cours d'eau, nous nous dépérissons.
L'équipage d'Ulysse, à bord du Laisse-dire,
se met en route vers la Corse, à l'écoute de la mer
et des écologistes
qui se battent pour sauver la nature.
C'est pour les générations futures.
Notre équipage était composé de
Héloïne des mers,
Julia,
Smokmus,
Yaya,
Les Ténèbres,
Salia,
Mijiza,
Mendy,
Jérôme,
Manon,
Thaïs
et JC.
Ah bah oui,
et Nico.
Voilà, c'est fait comme Moussa. Faut booster le prix de la hagra. Faut chuter le cours de la monnaie. S'ensuit des vampires, on connaît. Je rate pas mes cibles, je suis précis. Vous n'êtes pas mentionné dans mon récit. Ce qui paraît ici, rien que ça censure. Ce qui paraît ici, rien que ça censure. Ils ont splitté mes frères, je suis sceptique. Mais c'est dans vos complexes à la Oedipe. Qui pensait qu'en nous y avait équipe. Je fais la grâce faire mes hommages à Oedipe. L'amour et la haine dès le berceau. Agent de 3-7 et du Congo. D'où je viens comme Alfonso, une palme et des avions d'assaut. Pli, 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 tata. Je bois cru du fric quand j'ai plus tata. Rafa le fils de Ankataka. Pli, 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 tata. Je passe la trace et tu fais l'état.
C'est la fin de notre voyage.
Maintenant, on vous dit au revoir.
Dans cette odyssée,
on a appris à utiliser le voilier.
À plus jeter nos mégots partout.
Parce qu'un mégot est égal à 500 litres d'eau polluée.
Franchement, c'est bien béni aussi. Et on avait des poissons dans l'aquarium qui ont pris perpète. Choukran pour votre écoute et à la prochaine.
Adios.
Grazie mille.
Nous s'est retrouvé, Marmaille.
Bye bye, guys.
Nous remercions Fanny et Jérôme pour leur accueil lors du festival de Tau, ainsi que l'équipe du Siquarium et l'équipe de la Maison de la Mer du Cap d'Agde. Dans cette émission, vous avez pu entendre les morceaux des artistes Tiff et Yamé joués en live lors du festival de Tau. Merci de votre écoute.
Bientôt je débarque au plein. Les valises et les poches pleines. Si on plein 41 photo la mission réelle. Pas d'un commentaire.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
Si on te dit